Pourquoi est-ce que tant de personnes qui quittent le salariat pour trouver la liberté finissent par faire des semaines de 80 heures pour des clients qu'elles détestent secrètement?
Ah ouais, c'est le grand paradoxe du freelance.
C'est ça. On imagine toujours le travail parfait avec une plage, un ordi portable, zéro patron, mais la réalité, ça ressemble parfois plus à une prison dorée construite par l'indépendant lui-même.
Une prison dont on a jeté la clé très souvent.
Carrément. Du coup, aujourd'hui, on se plonge dans le livre Le guide anti-burnout pour les développeurs web freelance de Samuel Barbeau, qui démonte précisément ce problème. Et notre mission, c'est de mener une vraie discussion éditoriale.
Tout à fait.
On va débattre de ce paradoxe de l'indépendance, analyser les mécanismes de l'épuisement, sans pour autant tout résumer bêtement ni gâcher la fin du parcours proposé par l'auteur. Alors, décortiquons tout ça. Regardons de plus près cette illusion de liberté absolue.
Ouais, ce mythe de l'indépendance totale, ça occulte complètement la pression invisible qui s'installe dès le premier jour d'activité, en fait.
Exactement. Le freelance cherche l'autonomie et au final, il tombe souvent dans la précarité financière et l'isolement. C'est comme un buffet à volonté, en fait.
À buffet à volonté, hein, comme ça.
Le développeur s'étouffe en acceptant tout. Il veut tout goûter par peur de manquer. Et je me pose la question, le vrai danger dans cette histoire, est-ce que c'est pas le freelance lui-même plutôt que les exigences du client?
C'est une super question. Et ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique psychologique implacable que le texte met en lumière. L'auteur a d'ailleurs une observation très juste dans le manuscrit. Je cite: La liberté de choisir ses horaires et ses projets glisse facilement vers la surcharge de travail, tant il est tentant d'accepter chaque opportunité qui se présente.
Ah, la fameuse surcharge. Et on comprend totalement pourquoi ce glissement se produit.
Bien sûr, sans salaire fixe garanti à la fin du mois, on fonctionne avec une sorte de mentalité de rareté.
Oui, on se dit que si on refuse ce projet aujourd'hui, on n'aura peut-être rien le mois prochain. C'est un peu comme une carte de crédit émotionnelle.
C'est une bonne image, ouais.
On dépense son énergie sans compter, on tire sur la corde pour acheter la validation et l'approbation du client, et on accumule une dette de fatigue gigantesque.
Et ce qui se passe alors, c'est que le cerveau, face à ce stress chronique et à cette anxiété financière, il active un mécanisme de défense redoutable.
La dépersonnalisation, c'est ça?
Exactement. Le professionnel, qui était super passionné au départ, commence à percevoir ses clients comme des menaces ou juste des numéros.
Ah ouais, c'est triste.
Le cynisme et la froideur deviennent un bouclier inconscient pour ne plus ressentir cet épuisement émotionnel.
C'est fou d'en arriver là. Donc si le danger naît de cette surcharge qu'on accepte, l'antidote, ce serait la capacité à poser des limites.
C'est la base, oui.
Mais attends, je fais l'avocate du diable. Dans la vraie vie, si un freelance dit non à un client, la peur, c'est que ce client ait juste embauché un autre développeur, non?
C'est la terreur classique, oui.
C'est terrifiant. Le texte aborde l'utilisation d'outils de gestion, genre la méthode Pomodoro ou la matrice d'Eisenhower. Mais si on ne soigne pas d'abord cette peur viscérale de décevoir ou d'être remplacé, une application de gestion du temps, ça ne sera qu'un simple pansement, non?
Ah mais je te rejoins complètement. Si on relie ça à la situation globale, la véritable gestion du temps commence par la gestion de cette peur.
C'est clair.
L'auteur souligne un principe fondamental, il dit « Le oui de trop se paie toujours plus tard » et il se paie cher. En réalité, dire oui à tout par peur du manque, ça détruit inévitablement la qualité du travail rendu.
Ce qui finit par ruiner la réputation professionnelle, du coup.
Totalement. Alors qu'à l'inverse, assumer ses limites envoie un signal d'intégrité. Un professionnel qui ose annoncer calmement qu'il n'est disponible que dans 3 semaines, il crée un effet de rareté.
Il prouve qu'il maîtrise son processus.
Voilà. Et paradoxalement, la confiance et le respect du client naissent de cette clarté, pas de la soumission.
C'est super intéressant parce que c'est une dynamique qui résonne bien au-delà du monde de la tech ou du freelancing.
C'est vrai, ça touche tout le monde.
Que l'on soit salarié, manager ou chef d'entreprise, fixer ses frontières, ça ne ferme pas des portes, ça filtre les bonnes opportunités.
C'est ça. Ça éduque les collaborateurs sur la façon dont on souhaite travailler.
Et c'est exactement ce qui rend ce livre si pertinent. L'analyse psychologique est brillante et on n'a fait qu'effleurer le sujet aujourd'hui.
Ah oui, il y a tellement plus à dire.
C'est vraiment une invitation hyper enthousiaste à lire le manuscrit complet de Samuel Barbeau. C'est indispensable pour repenser son rapport au travail, bien avant d'atteindre la zone de rupture.
Surtout que le livre regorge de stratégies super pratiques sur l'ergonomie, la nutrition ou même la déconnexion numérique.
Absolument. Ce qui m'amène d'ailleurs à une petite pensée provocatrice pour clôturer notre échange.
Je t'écoute.
Et si la compétence la plus cruciale d'un développeur aujourd'hui, ce n'était pas d'apprendre sans cesse un tout nouveau langage de code super complexe, mais simplement d'avoir la discipline d'éteindre son écran? Finalement, la vraie maîtrise de son métier, c'est peut-être juste de savoir quand baisser les voiles.
Cette discussion vous a plu? Le livre complet, le guide anti-burnout pour les développeurs web freelances de Samuel Barbeau, est disponible dès maintenant sur Amazon. Bonne lecture.